vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre ce journal. La situation confuse née de l'interpellation du président de la transition malienne et de son premier ministre pourrait impacter sur le calendrier électoral établi, à suivre une analyse de Dr Ali Tunkara, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Les habitants du canton d'Anzourou réfugiés à Tillabéri sont retournés chez eux vendredi. Ils témoignent dans cette édition de leurs nouvelles conditions de vie. En partie magazine, le témoignage d'une victime de fistule obstétricale guérie et qui garde de souvenirs douloureux. Hawa Momana au micro. Le président de la transition malienne, Ban Daw, et son premier ministre Mokhtar Wane ont été interpellés hier par des militaires et conduits au camp de Kati, situé à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Une situation confuse qui pourrait impacter le calendrier électoral déjà établi, estime Dr Ali Tunkara, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Il est joint au téléphone par Tavnan Foudey Ahmed.
Maintenant, est-ce qu'une telle arrestation peut-elle être qualifiée de coup d'État ou coup de force? L'explicatif reste quand même subjectif. Mais ce qui est sûr, entre militaires anciens coutistes, autorités civiles, la transition, naturellement, des tensions sont tout à fait réelles. Déjà, les Maliens affectifs s'attendaient, en tout cas, à une sorte de changement brutal. Lequel changement brutal aujourd'hui, on peine à lui donner un qualificatif parce que jusqu'ici quand même, premier ministre, président de la transition, reste en plein air de l'ex-junte militaire de la garnison Kati.
Docteur, est-ce qu'aujourd'hui cette action peut troubler l'ordre et la quiétude qui règne au Mali depuis quelques mois?
Le calendrier électoral initialement annoncé, et dans le même temps, le semblant d'accalmie qui avait assisté le pays aussi, pourrait être bouleversé.
Nous apprenons de la télévision nationale malienne que le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a démis de leurs fonctions le président de la transition et son premier ministre. Les personnes issues des villages de Gassara, Gadabo, Ziban, Gassakofum, qui s'étaient réfugiées à Tillabéri, chef-lieu de la région, pour cause d'insécurité, sont retournées vendredi 21 mai dans leurs villages respectifs. Ils se réjouissent de leurs conditions de vie et de la protection assurée par les autorités nationales. On écoute leur témoignage au téléphone de Boubacar Oumarou.
Présentement, tout va bien. Je peux dire même très bien. Alhamdulillah, on est bien installés. Il n'y a plus de psychose, qu'Allah nous accompagne. Vous savez bien, nous, notre souci, c'est vraiment l'agriculture. Faire nos travaux champêtres dans la paix et la quiétude. Avoir une bonne saison de pluie, c'est vraiment ça notre souhait.
Que Dieu accompagne le gouvernement et qu'il nous accorde la paix. En tout cas, Dieu merci, je dirais. Les soldats font tout ce qu'il faut. Ils sont presque partout autour de nous. Actuellement, où je vous parle, ils sont au château d'eau. Ils y restent jour et nuit. Et de notre côté, tout le monde est dans ses occupations. Tu pars chercher ton bois, tu reviens faire ta cuisine et manges tranquille avec ta famille. Tout va bien.
C'est ce 25 mai le délai de rigueur pour l'installation des élus municipaux au Niger. Cependant, dans plusieurs localités, ce processus accuse du retard. C'est le cas de la commune urbaine de Gouré, région de Zinder. Selon un élu joint au téléphone ce matin, ils sont toujours dans l'attente de la convocation du préfet pour cette installation. Maï Moussa Ali Boukar répond au téléphone de Nafissa Adamou.
D'une façon générale, les élections ont eu lieu dans les 5 autres communes, puisque le département de Gouré est composé de 6 communes. Mais à notre grande surprise, les deux, vers 17h, ils ont reporté à une date ultérieure pour la commune urbaine de Gouré. Et le préfet a fait sortir une lettre pour dire vraiment qu'il y a des verrous pour l'installation. Nous étions dans l'attente, donc le 19, un message radio est tombé et a demandé de finaliser l'installation des élus qui avaient commencé et passer ces délais. Et ils vont passer vraiment à la dissolution du conseil qui n'a même pas été installé et placer des délégués spéciaux. Jusque-là, on est le 25, la date victoire, et lui, il a refusé de le faire. Nous attendons, nous sommes des citoyens, s'il ne convoque pas, vraiment, nous comptons faire recours.
La région d'Agadez, longtemps considérée au Niger comme une localité où le paludisme est absent, est classée région zone endémique du paludisme. C'est ce qui ressort des chiffres et des études réalisées par le ministère de la Santé l'année dernière. Pour prévenir cette maladie, cette année, le ministère de la Santé a procédé à la distribution gratuite de 370 000 moustiquaires imprégnés à la population. Docteur Bawan Allah Goubekoy, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, explique les mesures prises pour d'autres localités de la région au micro de Moussa Maman.
Comme vous le savez, ça fait très longtemps que nous avons toujours considéré la région d'Agadez comme une région où il n'y a pratiquement pas de paludisme. Mais ces dernières études que nous avons eues à mener ont montré de la même façon que les autres souffrent de paludisme, de cette même façon au Agadez aussi, le paludisme est devenu endémique et épidémique. La preuve, si vous vous souvenez, la saison passée, c'est une épidémie paludisme que nous avons eue ici à Agadez. Donc il n'y a pas de raison qu'on distribue des moustiquaires ailleurs et qu'on ne les distribue pas ici à Agadez. En plus même de cette distribution de moustiquaires. Nous avons identifié deux districts, le district de Adrebissinat et le district de Engel, qui feront l'objet d'une campagne de prévention contre le paludisme saisonnier. C'est des enfants de 0 à 5 ans à qui nous allons donner des produits contre le paludisme à intervalles réguliers jusqu'à ce que la saison finisse.
Débuté le 4 mai à Zender, la première phase de la vaccination contre la COVID-19 se poursuit normalement. À la date du 24 mai, 61% des agents de santé qui sont les cibles clés ont reçu leur première dose et moins de 5% pour les forces de défense et de sécurité selon les données de la Direction régionale de la santé publique de Zender. Maman Lawan Saleh du service régional programmation et information sanitaire.
Pour une cible totale de 68 940 personnes à vacciner. À l'heure actuelle, au niveau de la région, pour ce qui est donc de la première vague, nous avons eu à vacciner 18 612, ce qui nous donne donc une couverture administrative de 27%. Par rapport toujours à cette vaccination, nous avons comme cible les personnes âgées de 18 ans à plus, y compris donc les personnes âgées. Nous sommes en train d'utiliser deux types de vaccins, l'AstraZeneca et le Sinopharm. Nous avons les cibles clés qu'on appelle donc les agents de santé et toutes les catégories donc de personnel, les autorités, les pèlerins, les forces de défense et de sécurité. Pour ce qui est donc des agents de santé, nous avons une couverture à cette date de 61%. Et par rapport au FDS, vraiment c'est là où les données ne sont pas totalement bonnes, si je peux m'exprimer ainsi, sinon vraiment nous avons une couverture de moins de 5%.
Des propos recueillis par Mustapha Mamansani. L'Afrique célèbre ce 25 mai la journée de l'Afrique, 58 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, le 23 mai 1963. Elle deviendra plus tard l'Union africaine. La journée d'aujourd'hui devrait être le symbole de la lutte de l'Afrique pour sa liberté, son indépendance politique et économique et la sécurité de ses États, explique le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, Seydou Abdoulaye. Il est au micro de Mokhtar Amadou.
Le rêve vraiment caressé par ceux qui ont créé l'Union africaine est en train d'être brisé. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, du point de vue sécuritaire, l'Afrique n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des États. Aujourd'hui, quand je regarde, par exemple, ne serait-ce qu'au Sahel, la question sécuritaire depuis près de 10 ans, comment elle est en train d'être gérée. Vraiment, le discours qui était construit pour arriver à la création d'un certain nombre de dispositifs et d'institutions qui pouvaient permettre à l'Afrique d'assurer sa sécurité. Et aujourd'hui, vous avez des puissances extérieures qui profitent de cette situation sécuritaire pour aujourd'hui se positionner partout. Nous avons des bases étrangères installées sur nos sols sous prétexte de venir nous appuyer du point de vue sécuritaire, alors que normalement, ce sont des choses qui ne devraient pas être possibles aujourd'hui si véritablement un travail important avait été fait.
Des éleveurs nigériens réunis au sein de l'association dénommée Robin ont organisé hier à Birnin-Koni, région d'Ottawa, une rencontre avec des éleveurs du Nigeria. Il s'agit de passer en revue les lois qui encadrent la transhumance transfrontalière entre les deux pays. Amadou Halilou, président de l'association Robin, explique les difficultés que rencontrent les éleveurs des deux pays au micro de Assoumana Moussa Arzika.
C'est une rencontre qui a regroupé les gens du Niger et du Nigeria qui vivent aux environs de la frontière afin qu'on en débatte des problèmes qu'il y a dans la transaction des personnes et des biens et également des problèmes qui existent entre les agriculteurs et les éleveurs. Ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est d'observer la loi. L'objet de cette rencontre, c'est de voir ensemble les textes et lois établis entre nos États de l'Afrique que nos dirigeants ont ratifiés. Par exemple, les textes et lois du Niger et du Nigeria en la matière, afin que les gens soient alertés et que chacun, une fois chez l'autre, les respecte pour avoir la paix.
L'année académique 2020-2021 tire à sa fin au Niger. Enseignants et élèves s'activent pour boucler le programme au lycée Issa Korombé de Niamey qui accueille à peu près 388 candidats au baccalauréat. Des cours de rattrapage sont organisés pour finir à temps selon l'administration. D'après le proviseur, dans certaines matières, ils sont à 75% d'exécution du programme. Aboubakar Harouna au micro de Rukayatou Abdrahmane.
Les cours continuent normalement. Les enseignants font de leur mieux pour pouvoir achever le programme. En plus des heures officielles où ils assurent les cours, ils font également des séances de rattrapage pour permettre effectivement aux candidats d'être mieux armés le jour des examens. Je peux dire que dans certaines matières, ils sont à 75%. Quand vous prenez par exemple un PC au cours de cette semaine, le professeur va boucler son programme. Pour les autres classes, notamment en mathématiques, pour les séries D, d'ici les examens, ils vont achever le programme. Et en SVT, par exemple, ils sont entre 62 et 70% d'exécution du programme. Nous avons fait l'inscription en ligne. Même les convocations, ça nous vient en ligne. Nous allons les scanner pour remettre à chaque candidat sa convocation.
Parti magazine, la fistule génitale féminine ou encore appelée fistule obstétricale reste un problème de santé publique au Niger. La fistule touche les femmes le plus souvent des suites d'un accouchement difficile. Le ministère de la Santé estime à 750 le nombre de nouveaux cas enregistrés par an. Mohamed Balkissa est l'une d'entre elles. Durant 4 ans, elle a enduré le calvaire de la maladie. Aujourd'hui guérie, elle raconte son histoire. Des propos recueillis par Balkissa Hamidou.
Madame Mohamed, dites-nous comment vous avez contracté cette maladie.
C'est après mon accouchement que ça a commencé. Ça a pris trop de temps parce que je ne savais pas que c'était la fistule. Car quand j'ai remarqué que mes menstruations ne venaient pas, je suis allée au centre de santé. On m'a prescrit des pilules et les menstruations ont repris. Mais le souci, je les avais en forme d'urine. Partout où je vais, on me dit que je ne vais plus pouvoir accoucher. Personne ne m'a dit que je suis atteinte de la fistule, car j'ai fait 4 ans avec. Si je pars à ce centre de santé, on me dit telle chose. À un autre centre, on me dit que je dois peut-être être opérée. Mon conjoint me demande de quoi je souffre donc pour qu'on me parle d'opération. Que lui, il ne va pas payer des frais d'une intervention sans savoir de quoi je souffre. Arrivé à un moment donné, je me suis découragée et je suis restée à la maison. Un oncle à moi est venu de la Suisse. Il a consulté mes papiers et a dit que je n'ai fait que gaspiller mon argent. Il m'a dit, ce que je veux de toi, demain matin très tôt, rends-toi au centre de fistule. Si on ne peut pas t'aider même là-bas, je vais te faire évacuer à l'étranger pour te soigner. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici au centre.
Comment avez-vous été accueilli au niveau du centre? Est-ce que l'accueil s'est bien passé?
On est parti retrouver le major. Il nous a accueillis et a demandé en quoi il pourrait nous aider. Je lui ai expliqué. J'ai amené tous les papiers d'examen avec moi. Il les a gardés et m'a dit d'aller revenir le vendredi, car c'est le jour des visites. Il m'a dit, si tu viens, si le docteur te voit après consultation, on saura quoi faire. Je suis rentrée chez moi. Le vendredi à 7h du matin, j'étais au centre jusqu'à mon tour de consultation. Je suis rentrée. Dès que je suis montée sur la table, le docteur m'a dit que je suis atteinte de la fistule. Il m'a demandé si j'ai eu des fuites urinaires. J'ai dit non, jamais.
Une fois le diagnostic posé, comment s'est faite la prise en charge?
Quand j'ai su de quoi je souffrais, je vais au centre pour me faire soigner jusqu'à ce qu'on me dise d'aller faire une prise de sang. J'ai ramené les résultats, on m'a attribué un lit et on m'a donné des médicaments. On m'a annoncé que je serais opérée le lendemain. J'ai pas payé un franc. Ils m'ont donné les médicaments et m'ont soignée. Maintenant, Dieu merci, je suis guérie et mon cycle menstruel est normal. Et les urines aussi sont à leur place. Aucun n'est à la place de l'autre.
Et c'est la fin du journal de ce 25 mai 2021. À suivre le forum La représentation politique des femmes, quel quota au Parlement et dans le gouvernement. Présentation Samira Rouafi.